9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien, Maître Serran, nous allons faire le point sur les devoirs des employeurs vis-à-vis de leurs salariés, avec pas mal de questions. Déjà, est-ce qu'un employeur peut imposer le télétravail à ses employés ?
Alors, d'abord, il faut savoir qu'entre le premier et le deuxième confinement, donc il y a eu des changements. C'est vrai qu'on a mis, entre guillemets, on va dire à la mode, le télétravail. Sauf que là, donc, compte tenu de cette situation, Madame Borne, donc, a indiqué que le télétravail devenait la norme. Donc, c'est devenu obligatoire. Alors, c'est devenu obligatoire, mais pas dans n'importe quelle condition. D'abord, bien évidemment, il y a certaines professions qui ne peuvent aucunement s'exercer en télétravail. Et pour toutes les autres professions où le télétravail semble, entre guillemets, évident. Donc, il y a deux options. Donc, soit votre employeur, alors que vous considérez que vous pouvez éventuellement télétravailler, soit votre employeur vous demande de venir quand même et de faire ce qu'on appelle du présentiel. Hein, c'est un terme qu'on entend maintenant.
Ah, c'est la mode maintenant.
Ah ouais, on entend que
présentiel,
ça. Présentiel.
Ouais.
Et puis vous considérez que le télétravail serait suffisant, bah dans ce cas-là, il peut y avoir comme on dit un petit début de litige. Donc avant que le litige puisse s'accroître, eh ben il va falloir d'abord discuter avec le responsable de la société, donc donner votre point de vue, vos conditions pour pouvoir travailler en toute sécurité évidemment pour les uns et les autres. Mais s'il y a une difficulté, je veux moi télétravailler salarié et votre patron dit non. Alors, sauf à obéir à votre patron, mais sachez que vous avez quand même la possibilité soit d'en parler à des syndicats, si il y a des syndicats, soit éventuellement de faire appel à l'inspection du travail, et c'est l'inspection du travail donc qui entre guillemets va trancher entre les uns et les autres. Vous avez des personnes donc qui encore une fois, quand elles sont en télétravail, se posent la question de savoir dans quelles conditions on peut travailler. Alors télétravail, le terme est intéressant, mais c'est vrai que encore faut-il que là où vous habitez, vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Alors de bonnes conditions, qu'on le veuille ou non, idéalement c'est une pièce dédiée à ça, avec un bureau, un ordinateur,
une connexion internet qui fonctionne.
Une connexion internet, un siège, enfin le matériel et tout ce qu'il faut. La règle étant que si on vous demande de télétravailler, vous devez, en tout cas l'employeur doit faire en sorte que vous puissiez quand même travailler dans les meilleures conditions. Et on connaît tous des personnes qui sont en télétravail. Moi, ce qui revient très régulièrement, c'est que, par définition, on n'est pas concentré quand vous êtes à la maison. Et quand, si vous êtes à la maison, vous faites d'autres activités annexes. Par exemple, les enfants. Les enfants, faut bien les emmener à l'école. Et puis, comme, vous voyez, moi, dans l'établissement où il y a mes enfants, on nous demande de pas les mettre à la cantine, et les enfants, ils reviennent manger à la maison. Donc quand vous êtes en télétravail et vous devez vous occuper également en parallèle du ou des enfants, on peut comprendre que c'est pas forcément idéal. Mais quand vous avez un employeur qui vous dit c'est télétravail et rien d'autre, il faut savoir que c'est pas forcément un caprice de l'employeur. Il y a une obligation qui pèse sur les employeurs, qui est une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. Concrètement, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que si je suis salarié, que mon employeur me demande de venir travailler, ou alors mon employeur me le demande pas, mais moi je veux absolument venir travailler et j'insiste pour faire donc de la présence physique au sein de la société. S'il devait arriver quoi que ce soit, si ce virus était contracté par l'intéressé au sein de la société, c'est l'employeur qui engage sa responsabilité.
Alors est-ce que l'employeur peut justement, concernant le virus, imposer des tests PCR à ses salariés qui travailleraient en présentiel, donc dans les locaux de la société?
C'est toute la difficulté quand vous êtes employeur, c'est-à-dire que vous pouvez pas imposer tout et n'importe quoi. Voilà, vous pouvez pas imposer un test PCR. C'est comme si vous demandiez donc à vos salariés de faire obligatoirement une prise de sang. Vous voyez, c'est pas possible. Le test PCR, on va vous indiquer, on va vous préciser que il y a un test PCR qui permet de. Mais si vous décidiez de faire le rebelle ou le pénible, l'employeur ne peut pas vous l'imposez encore une fois. On est attaché en France, on est attaché dans ce pays à l'intégrité physique. Il n'y a personne qui peut vous forcer à faire ce genre de test. Il n'y a personne qui peut vous obliger à faire une prise de sang. Donc c'est, moi je peux comprendre la difficulté de ces chefs d'entreprise. Je le redis parce qu'on est dans une société où très américanisé, en tout cas, qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour un oui, pour un non, aujourd'hui, vous avez des gens qui engagent des procès. Résultat, on a des employeurs, encore une fois, qui sont assez timides par rapport à ça, donc qui veulent pas courir tous les risques. Donc, moi, je vais vous proposer ce test PCR, maintenant. Vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Donc, voilà, il s'agit pas de dire, tiens, est-ce que le travail comme ça à distance arrange forcément le chef d'entreprise. Les chefs d'entreprise en ce moment, ils ont de lourdes responsabilités. Je parle même pas de l'aspect économique, du ralentissement, enfin voilà, mais simplement un problème de responsabilité à l'égard des salariés.
Alors Maître Serran, une question qui revient souvent de la part des salariés: est-ce qu'un employeur peut vous obliger à solder tous vos congés payés et RTT avant de vous proposer l'activité partielle?
Non, il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Donc, alors j'avais regardé parce qu'au début on n'avait pas, c'était encore entre guillemets
c'était
un petit
flou
peu,
parce qu'après on était dans un entre-deux.
On est entièrement d'accord. Alors il y a une tendance, comme dirait l'autre là, qui est mise en avant en ce moment. Donc on laisse entendre de part ce qu'on appelle la doctrine, c'est-à-dire les interventions des juristes et autres ou profs de droit. Donc il en résulterait qu'à ce stade-là, pour l'instant en tout cas, il n'y aurait pas d'obligation à ce niveau-là. Mais, encore une fois, on est en pleine construction, comme disent les juristes, construction jurisprudentielle, c'est-à-dire que tout le monde est un petit peu en train de naviguer à vue, donc nos gouvernants évidemment, mais même au niveau du droit, même les juristes sont incapables aujourd'hui de dire ça va prendre telle direction et on ira comme ça jusqu'au bout. On voit bien que ce virus nous oblige tous à essayer de faire du sur-mesure, et quand on fait du sur-mesure et quand on navigue à vue, il y a des règles qui sont valables aujourd'hui, qui ne le seront peut-être pas demain. Donc, pour répondre à... Je crois qu'il
y a... Il y a quelqu'un qui navigue à vue avec, avec sa perceuse, là.
Avec sa perceuse. Ouais. Donc, à ce stade-là, au moment où
donc,
je vous parle...
Non, on ne peut pas vous obliger à vider vos comptes épargne-temps,
Maintenant, la réponse vaut au moment, encore une fois, où on se parle. Je ne sais pas ce qui pourrait éventuellement arriver demain, après-demain.
Est-ce qu'on peut faire des ruptures conventionnelles sans rendez-vous physique aujourd'hui?
Alors,
en raison du confinement?
On est dans ce qui s'appelle un cas de force majeure, c'est-à-dire que on a plein de situations où en principe des situations juridiques où en principe on doit être entre guillemets les uns face aux autres, on doit être dans la même pièce et dans le même bureau. Les circonstances font que, donc à partir du moment où vous vous organisez comme il faut, même si on n'est pas là à se faire la bise dans le bureau comme on le faisait il y a bien longtemps, mon cher Philippe,
j'en ai
la nostalgie de tous ces
ça
bisous.
S'embrassait.
Ouais, on est d'accord. Donc là, à partir du moment, encore une fois, où les règles sont respectées par les uns et les autres, compte tenu de la situation. Comme dira l'autre, personne vous en voudra si c'est pas fait en présentiel là encore.
Si vous êtes cas contact, est-ce que vous êtes tenu de le dire à votre employeur ou pas?
Est-ce
qu'il y a une obligation?
Non,
il y a une obligation.
On ne peut pas vous obliger à rester chez vous, en fait. Non, mais il y a une obligation morale. Vous savez, encore une fois, le droit peut pas tout faire. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez des capacités pour raisonner, que vous n'êtes pas placé sous tutelle, où vous pouvez comprendre votre environnement, faut pas tout attendre de la société, faut pas tout attendre du droit. Et heureusement. Parce qu'une société qui serait millimétrée par des textes sur tout, ce serait une société inquiétante. Donc, à partir du moment où vous êtes cas contact, il y a quand même, encore une fois, une histoire de confiance en l'autre. Alors, vous avez pas envie de le déclarer, bah vous le déclarez pas, vous en tirez les éventuels.
Les gens sont tenus de s'isoler, mais, c'est pas obligatoire.
Non, c'est pas obligatoire. Encore une fois, on peut pas contraindre. Vous savez, à partir du moment où je ne peux pas vous tester, vous forcer à vous tester pour voir si vous êtes éventuellement infecté, cas contact ou pas, donc je ne peux pas vous dire vous allez rester à la maison, on verra plus tard. Je suis cas contact, j'ai pas envie de le signaler, et j'allais presque dire quand bien même je le signalerai, il y a pas de contrainte physique. Alors c'est aussi la différence entre la société dans laquelle on évolue et ce qu'on appelle un tout petit peu au-dessus une dictature. C'est aussi ça. Vous connaissez ma position. Je suis, moi, pour une démocratie musclée. Je considère que...
Il y a des mots qui vont pas ensemble.
Ouais, oui, non, mais on est d'accord. Je considère que toutes ces règles de droit, et l'avocat que je suis, évidemment, on en a besoin, mais je considère aussi que dans des circonstances exceptionnelles, on devrait pouvoir faire l'économie d'aller piailler à l'Assemblée nationale et de se faire engueuler par le ministre, j'ai oublié son, Véran. Donc voilà, bon, après ça n'engage que moi, mais restons quand même dans la démocratie, c'est peut-être la meilleure des options.
Bien, la démocratie téléphonique, c'est dans un instant. Si vous avez des questions juridiques à poser à Maître Serran, il répond à vos questions. 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran qui est avec nous tous les vendredis et qui répond à vos questions juridiques au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Et nous avons Karima qui a une question à vous poser, Maître Serran. Karima, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Karima.
Bonjour Karima.
Bonjour. Je voudrais poser une question. C'est par rapport au divorce de ma mère.
Oui.
Donc, elle est divorcée après 35 ans de mariage. Et donc, mon père, il a profité de prendre le divorce ici, la décision de divorce ici. Il s'est divorcé en Algérie sans qu'elle signe cette décision.
D'accord. Donc, vos parents habitent sur le territoire français, mais votre père a engagé une procédure au pays.
Il a fait la procédure ici.
D'accord. Après, il a d'abord engagé une procédure sur le territoire français.
Exactement.
Mais qui n'a pas été jusqu'au bout ou elle a été jusqu'au bout, la procédure en France?
Elle a été jusqu'au bout. Ils ont pris une décision que ma mère, elle n'est pas vraiment accepté cette décision, mais voilà.
Enfin, le divorce a été prononcé.
Oui.
D'accord. Et donc, quelle est la nature de votre question?
Et donc, en Algérie, est-ce qu'ils ont... parce qu'ils ont une petite maison là-bas, et donc, elle n'est pas actée. Et donc, ma mère, elle voulait prendre la moitié de cette maison, mais mon père, il ne voulait pas partager cette maison.
Mais la maison est au nom de qui, madame?
De personne, parce qu'elle était attribuée... Oui, des deux, normalement.
Faut se méfier du terme normalement, hein. Voilà, parce que enfin là il y a un acte de propriété quand même, non?
Non, il n'y a pas. C'est ça. Et il est en attente.
Mais en attente de quoi? C'est-à-dire qu'au moment où on se parle.
En attente de décision, parce que il est au domaine, donc ils n'ont pas pris décision. Est-ce qu'ils vont faire généralement? Et il est attribué directement au nom du mari.
C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, la probabilité est forte pour que l'acte de propriété soit formalisé au nom de votre père. Et c'est au nom de votre père, la question se pose plus. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il est le seul propriétaire et ça s'arrête là.
Oui. Mais là, elle a fait une procédure là-bas en Algérie, mais le juge, il n'a pas tranché, il n'a rien tranché parce que l'acte n'est pas encore...
Oui, non mais légitimement, c'est-à-dire qu'un magistrat pourra se poser la question à partir du moment où il aura un document officiel sous les yeux. Ouais. Donc, mais la probabilité est forte.
Cette maison est attribuée à un monsieur qui est normalement, son fils marié, normalement pour attribuer cette maison, il y a une condition de mariage. donc à l'époque, et ils étaient mariés, donc il a pris la livrée de famille, après ils ont entamé cette procédure. Mais là, après 35 ans de mariage, ils ont fait cette décision de se divorcer.
Mais sur le territoire français, alors on va laisser l'éventuelle décision au pays, mais de ce que vous me dites, ça sent pas forcément bon concernant cette maison. Mais sur le territoire français, votre maman a travaillé à l'époque ou pas?
Sur le territoire français, oui.
Ouais.
Oui.
D'accord, mais alors je sais pas, il y a quelque chose qui lui a été quand même attribué, ce qu'on appelle une prestation compensatoire ou rien de tout ça?
Rien de tout ça. Ma ménagerie, elle n'a pas signé le divorce, et elle est divorcée, mais le juge, il a attribué juste 3 millions de dinars.
D'accord. Alors, en Algérie, je ne suis pas très surpris par la nature de cette décision. En règle générale, voilà, sur un plan financier, on s'en sort un peu mieux quand le divorce est prononcé sur le territoire français, mais même sur le territoire français, elle n'a rien obtenu d'important ou de conséquent.
Elle n'a rien obtenu.
Bon. Et elle a contesté cette décision ou pas? Est-ce qu'elle a interjeté appel?
Elle a contesté, mais ça n'a rien donné aussi.
Bon, bah donc il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que si vous me dites que le jugement sur le territoire français est, comme on dit, définitif, c'est-à-dire si elle a fait appel et que la cour d'appel, madame, a confirmé la décision du tribunal judiciaire, du tribunal de première instance, donc sur le territoire français, c'est plié. Mais de ce que vous me dites et de ce qui se passe en Algérie, voilà, à partir du moment où l'acte laisserait entendre que la maison est au nom de monsieur, elle n'obtiendra rien non plus.
D'accord.
Après 35 ans de mariage, hein, c'est quand même...
C'est... Mais alors après, il y a 35
plus,
ans...
Et en plus, elle n'a pas de... Là-bas, elle n'a rien, donc...
C'est pour ça que je vous dis, il faut quand même miser... plus sur les sur ce qui peut se passer sur le territoire français. Maintenant, on peut avoir 35 ans de mariage, mais si vous me dites que votre maman a travaillé durant toutes ces années de mariage, et puis alors je sais pas combien elle pouvait éventuellement gagner, je suis pas en train de dire que la décision des autorités françaises est injuste. Le magistrat se prononce en fonction de la situation des uns et des autres. Quand on est marié et que monsieur et madame travaillent, il n'y a aucune raison de verser une prestation compensatoire à madame, par exemple. Aucune.
Mais pourtant, elle perd du niveau de vie.
Oui, elle perd du...
Cette compensation...
C'est pour dire, en gros, mais attendez, moi, si on se sépare, je vais me retrouver en difficulté. La meilleure des hypothèses, c'est madame qui entre guillemets n'a jamais travaillé, qui s'est consacrée à l'éducation des enfants, qui s'est occupée de la maison, qui s'est occupée de monsieur, et puis il y a que monsieur qui travaille. Ou parfois on a des clients qui nous disent, mais même quand je voulais travailler, monsieur ne voulait pas. Donc là, quand vous dépendez exclusivement du salaire de monsieur et que demain c'est monsieur qui prend l'initiative du divorce et qui dit maintenant c'est terminé, effectivement vous tombez de haut. Mais à partir du moment où madame a travaillé ou elle a toujours eu son salaire, son niveau de vie est quand même maintenu, puisqu'elle aura quand même, qu'on le veuille ou non, entre guillemets, un peu moins de dépenses, puisque il y aura monsieur qui versera aussi une pension alimentaire, encore une fois, souvent c'est monsieur, pour les enfants. Donc il n'y a pas forcément prestation compensatoire, on va dire automatique, dans un divorce. Il faut vraiment...
Quand vous quittez l'appartement ou la maison que vous habitez, enfin, voyez...
Alors, honnêtement, pour être clair, ça peut arriver, mais très souvent, dans 90% des cas, c'est monsieur qui doit plier ses affaires, les mettre dans sa valise et partir, sincèrement. Et parfois aussi, monsieur quitte le domicile et il est aussi chargé de régler durant la procédure, mais les procédures peuvent durer longtemps, parfois c'est un an et demi, deux ans, il est chargé de régler le loyer ou le crédit. Donc on a plein de dossiers où ça se passe comme ça. Donc très souvent, qu'on le veuille ou non, encore une fois, c'est monsieur qui est un peu perdant dans ce type de procédure, même quand il prend, alors qu'il prenne ou qu'il prenne pas d'ailleurs l'initiative. Mais c'est un réflexe. Alors je dis pas que c'est injuste ou autre, parce que, en particulier quand vous avez des enfants, le magistrat, avant de faire plaisir entre guillemets à monsieur ou à madame, raisonne dans l'intérêt des enfants. Et quand les enfants reste avec madame. Évidemment, on va pas dire à madame, bon, vous prenez les enfants et puis partez et débrouillez-vous. C'est légitime de laisser les enfants dans leur cadre, dans leur contexte, dans leur chambre. Et donc, encore une fois, très souvent, c'est monsieur qui doit quitter le domicile. Ça, c'est une réalité. C'est pas dire, pourquoi le monsieur serait désavantagé ou pas. C'est une réalité. Moi, je le vois dans mes dossiers. Et en particulier, quand vous êtes l'avocat de monsieur, on le voit bien dans nos écritures, il faut quand même ramer deux fois plus si vous sollicitez le domicile conjugal, la résidence des enfants. Ou alors il faudrait que, je dis n'importe quoi, mais que madame soit considérée entre guillemets comme folle, dangereuse. Enfin voilà, il faut que le dossier du côté de madame soit très sale ou très sali pour que le magistrat puisse se dire, bah tiens, peut-être que monsieur pourrait solliciter et la garde des enfants, et pourquoi pas le domicile conjugal. Mais ça arrive pas si souvent que ça, il faut le savoir.
Votre maman a travaillé, Karima?
Oui, elle a travaillé ici.
Elle a dû déménager ou pas?
Elle n'a pas pu travailler, mais ici, elle a travaillé. Pardon? Oui.
Elle a dû déménager ou pas?
Oui, ici.
Mais là, le domicile, qui l'a conservé?
Ils ont changé carrément, les deux.
Ah d'accord, voilà, donc après c'est un choix de l'un et de l'autre.
Oui.
Mais encore une fois, c'est pas surprenant. Hein. C'est pas surprenant le fait qu'elle n'ait pas obtenu de prestations compensatoires, parce que je le redis, ça concerne très souvent le couple quand il y a que monsieur, encore une fois, très souvent c'est comme ça, que monsieur qui travaille. Et là, évidemment, et c'est légitime, on peut pas dire à madame, bah écoute, là je vais te quitter, et puis madame se retrouve dans toutes les difficultés financières du monde. Donc là, la loi est bien faite. Là, c'est normal que monsieur soit qu'on lui tape au portefeuille. Mais quand dans un couple, les deux travaillent, évidemment, le magistrat prend ça en considération. On considère que, en tout cas, le juge a dû considérer que votre maman pouvait subvenir à ses besoins. Voilà, Karima.
Merci beaucoup pour votre question.
Vous avez des questions à poser à Maître Serran. Il y répond dans un instant à vos questions au standard. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran qui est avec nous, vous posez vos questions juridiques à Maître Serran au 01 53 48 3000. Mohamed est avec nous. Mohamed, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour à vous deux. Je vous appelle car j'aurais une question. Il m'est arrivé une petite mésaventure il y a quelques jours en voiture. Donc j'ai eu une altercation avec un monsieur. Cette altercation a un petit peu dégénéré, alors heureusement pas physiquement, mais verbalement, c'était assez violent.
Et, c'était pendant le ramadan ou avant le ramadan?
Non, c'était avant.
Après, ça s'explique, mais avant on peut.
Voilà, alors donc c'était bien avant. Et en fait, donc ça a été verbal. Ce que je voulais savoir, c'est alors je l'ai injurié également, il m'a injurié. Le seul souci, c'est que toutes ces injures étaient purement basées sur mes origines, ouais. Donc très racistes. Alors j'ai été également très très virulent puisque alors je vais peser mes mots, donc je l'ai également injurié. Alors ce que je voulais savoir, c'est est-ce que une insulte du type enfant de femme de petites mœurs, les mœurs légères, où abondamment...
Fils de bip.
Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai l'intention d'abondamment déféquer sur vous. Voilà, est-ce que ça a le même poids qu'un bougnoul rentre dans ton pays ou salarabe ou voilà.
Alors, on est sur des sur une connotation raciste, évidemment, sauf que, vous avez bien compris, ce sera le raisonnement du magistrat, c'est-à-dire qu'en gros, il y a ce qui s'appelle en droit l'excuse de provocation, c'est-à-dire qu'on peut, on pourrait vous dire, même si encore une fois ça n'excuse pas ces insultes et ces injures racistes, mais on vous renverra dos à dos. Ah, en disant d'accord, bon, il vous a dit ça, et puis monsieur nous dit que vous l'avez insulté sur ceci ou cela. C'est-à-dire qu'en gros, ce serait presque une excuse pour dire que vous l'avez peut-être un peu trop chauffé, et il est hors de lui. Donc, quand parfois on est hors de soi, on dit un peu tout et n'importe quoi. Donc, je sais pas si c'est pertinent d'entrer dans un conflit, dans une procédure. Vous avez déposé plainte ou il y a une plainte qui a été déposée contre vous ou
non.
Pas
Non, pas encore. Ouais. J'avais l'intention de déposer plainte parce qu'en fait, ça s'est passé. L'altercation a commencé dans une rue et s'est terminée dans une autre. Et dans cette rue-là, il y avait des gens qui l'ont entendu. Et au début, ça a commencé assez légèrement puisqu'il y avait du monde. Il m'a juste dit, évidemment, d'où vous venez, c'est normal, je comprends mieux. Enfin, et c'est ensuite que ça a dégénéré, quoi.
Est-ce qu'il y a besoin de témoins dans ces cas-là, Maître Serran?
C'est une bonne question, et c'est ce que j'allais lui demander. Il y a éventuellement des témoins qui pourraient attester de ça ou pas?
Il y a un témoin qui est prêt à témoigner sur le départ de l'altercation, puisqu'on était à l'arrêt, il a commencé un peu à s'exciter en voiture. Et c'est là qu'il m'a dit, forcément, d'où vous venez, c'est normal. Et cette dame l'a bien entendu et m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, je suis prêt à témoigner.
Bon, alors, vous savez, il faut toujours se méfier des gens qui, parfois...
veulent témoigner sur le coup.
Au début, on dit, oui, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Et puis, quand on leur demande de témoigner, alors, soit on se présente au commissariat, ça refroidit tout le monde, soit on fait une attestation écrite avec la photocopie de sa pièce d'identité, ça refroidit tout le monde. Donc, il faut quand même se méfier de ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas certain, éventuellement, d'avoir un témoignage, alors, et un témoignage fiable. Bon, là, vous me dites, c'est pas une personne de votre famille, c'est pas une personne qui était dans votre véhicule. Si vous n'êtes pas certain d'avoir ça, c'est pas la peine d'aller déposer plainte. Ce sera votre parole contre la parole de l'intéressé. Mm-hmm. C'est ce que je vous disais. On va vous renvoyer dos à dos. Maintenant, je peux comprendre que ça puisse heurter et que ça puisse blesser. Maintenant, il faut quand même vous attendre, si vous allez déposer plainte, à une procédure qui est jamais agréable. Donc, vous allez déposer plainte, avec la plaque d'immatriculation, ils peuvent retrouver l'intéressé. Mm-hmm. Donc, il y aura probablement une confrontation. Ça va vous bloquer quand même une demi-journée ou une journée. Et ensuite, après cette confrontation... Le policier va contacter le procureur de la République pour dire, écoutez, voilà ce qui s'est passé. Ça peut juste se terminer parfois, alors pas forcément une audience devant un tribunal correctionnel, mais avec une sorte d'avertissement en disant, monsieur, vous avez dit, sale bougnoule, c'est pas bien ce que vous dites, et puis faut pas le répéter. Donc, parfois, ça peut terminer comme ça, et c'est un peu décevant pour celui qui a engagé la procédure, beaucoup d'énergie, parfois on fait appel à un avocat. Bon, après, évidemment, comme dirait, c'est à vous de voir, mais je sais pas si ça vaut le coup d'épuiser votre énergie dans ce type de procédure. Bon,
qu'est-ce qu'on peut obtenir, finalement?
Non, mais en vérité, pas grand-chose. C'est-à-dire, imaginons même que vous puissiez vous retrouver devant un quelconque tribunal. Si en plus il est inconnu des services de police, ça terminera là encore devant un tribunal par un avertissement ou peut-être par une amende, mais ça ira pas plus loin. Et puis il faut pas compter sur ce type de procédure pour, même si c'est pas la volonté première des intéressés, pour obtenir des dommages et intérêts. Donc, en définitive, c'est beaucoup d'énergie quand même.
Alors pour moi, le simple rappel par une institution est largement suffisant. Mm-hmm.
Enfin, vous avez bien compris, je dis pas que ce sera automatique, c'est sous réserve. Vous avez un témoin ou pas, il a un témoin ou pas, la confrontation. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'à partir du moment où vous allez déposer plainte, parce que même chose, on va pas vous convoquer ou le convoquer le lendemain. C'est-à-dire que ça va rester dans les tuyaux du commissariat, dans les tuyaux du tribunal. C'est une affaire qui peut, si tout va bien, entre guillemets, se régler d'ici parfois peut-être une année. C'est toujours pénible d'avoir, qu'on le veuille ou non, un truc en suspens. Ouais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand c'est audiencé, on a même parfois des clients qui nous disent d'accord, sur le coup, j'étais énervé, ça m'a fatigué, je voulais que. Mais quand vous avez une audience, parfois au bout d'un an, un an et demi, les gens sont souvent passés à autre chose. Maintenant. Et en particulier si vous êtes certain d'avoir cette personne prête à témoigner, vous pouvez évidemment aller déposer plainte.
C'est certain, parce que c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais c'est quelqu'un que je connais puisque c'était devant l'école de mon fils et c'est sa maîtresse. Donc,
D'accord.
On peut en faire aussi, Maître Serran, une question de principe.
Ah, mais complètement. On peut en faire une question de principe. Bon, moi, je pars justement du principe que le temps est court et je ne sais pas si c'est, encore une fois, s'il y avait eu un acte physique, s'il y avait eu bagarre, si vous aviez été blessé, je peux l'entendre et le comprendre. Je me dis, ce sont des mots, ça fait pas plaisir d'entendre ça le bougnoule et autres. Et puis bon, et alors, une fois qu'il dit ça, ça va pas bouleverser ma vie. Ah, ce sont des mots qu'on entend parfois. Bon, voilà.
Alors, ça m'a pas bouleversé ou choqué outre mesure. Hein. C'est juste que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de manière aussi explicite.
Ouais.
Et donc effectivement, ça faisait. C'est la dernière fois que ça m'est arrivé, j'avais 15 ans.
Oui, mais vous avez raison. C'est d'abord un terme qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps, le terme bougnoule. Et vous avez raison, quand j'étais moi-même plus jeune, c'est un terme qu'on entendait quasi régulièrement. Ensuite, ce terme a disparu parce que les petits bougnoules sont devenus grands et un peu forts. Donc, il y a aussi cette crainte. Avant, on parlait plus facilement. Mais voilà, on sent bien que le vocabulaire est revenu. Les personnes se sont davantage lâchées. Après, je le redis, honnêtement, vous savez, on est... même moi en qualité d'avocat, on entend parfois ce genre de choses. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire sortir de la voiture et mettre un coup de tête et vous retrouver en difficulté? Ou alors laisser faire? Je le redis, moi, à partir du moment où le type, il vient pas, pardon pour l'expression, vous chier dans les pompes sous le menton, bon, je sais pas si c'est utile, même par principe, de perdre tout son temps d'aller au commissariat. Là, ça semble simple, mais vous savez, aller au commissariat, c'est déjà patienter X temps pour être reçu. Ensuite, ils peuvent éventuellement demander au témoin de venir. Alors, le témoin est disponible ou pas disponible. Ensuite, il y aura une confrontation. Ensuite, peut-être une audience. Donc voilà, c'est un investissement de temps. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais si vous êtes prêt à ça, pourquoi pas, bien sûr.
Mais du coup, ça veut dire quand même que voilà, on peut, vous disiez au début, nous renvoyer dos à dos et que les insultes un peu classiques soient mises au même
rang. Bah oui, monsieur, c'est mais ça on peut l'entendre, c'est-à-dire que si avec la même virulence vous avez également entre guillemets insulté, je dis pas c'est une excuse, mais la justice entre guillemets a ou aurait autre chose à faire. Et en gros, on va vous renvoyer dos à dos en disant on ne poursuit ni l'un ni l'autre. Voilà, il n'y a pas eu encore une fois de violence physique. Et puis vous n'êtes pas resté stoïque, c'est-à-dire que le type alors vous insulte, bougnoule et autres, mais vous rétorquez. D'ailleurs, vous nous l'avez dit. Donc c'est-à-dire que c'est terrible ce que je vais vous dire, mais il y a déjà trop de dossiers et au commissariat et au tribunal pour qu'un magistrat prenne le temps de se dire entre guillemets l'affaire est particulièrement grave ou importante. Dans l'absolu, je le redis, ça fait pas plaisir, c'est pas si grave. Dans ce genre de choses, vous savez, ça peut se régler que par un coup de tête, voilà. Et après vous assumez les conséquences. À partir du moment où il y a pas eu de coup de tête à un moment, un instant T, khlas, moi je crois qu'il faut passer à autre chose.
D'accord.
Ou alors il fallait le mettre dans
mais
le coffre.
Mais c'est plus dur
dans
parfois
le coffre
de
votre voiture.
Parfois c'est dur de passer à autre chose.
Alors le mettre dans le coffre de la voiture, l'emmener au bois et puis le torturer. Éventuellement.
Et Nico est sorti de prison?
Alors Nico, c'est marrant ce que vous
dites. Sinon Maître Serran a des amis qui peuvent aider.
Ouais, il est sorti de prison, Mskin. Ouais, si. Ouais. En plus, bon, j'avais été
il
voir.
Il a pris du service.
J'avais
un
été
peu,
le voir
pas,
à plusieurs. À
on
plusieurs
peut reprises. L'envoyer chez le camarade.
Mais c'est son boulot à plein temps, de toute manière. C'est pas un petit séjour en prison, comme dirait l'autre, qui va changer d'activité professionnelle. Mais non, mais indépendamment de ça, c'est un mec bien. C'est-à-dire que quand on le connaît,
il
franchement,
est bien.
C'est un mec qui est agréable. Bon. Ouais.
Et il rend des services.
Il rend service. Ouais, franchement. Donc, et je vous dis, j'ai été le voir plusieurs fois en maison d'arrêt. Non, c'est un mec sympa. Moi, je le connais depuis très longtemps. Nico, si tu m'écoutes.
Bon. Il ferait une ristourne à Mohamed?
Je sais pas. Faut voir la situation financière de Mohamed. Si, peut-être que Mohamed est blindé. S'il est blindé, il va peut-être même le racketter. Donc, je sais pas s'il faut lui présenter Mohamed.
Non, mais ça va aller alors. Non, ça va aller, merci.
C'est vrai, bon, alors après, c'est vrai que tourner la page, c'est compliqué, ça fait mal, mais bon.
Mais bien sûr, mais je le dis, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, de tracasserie. Donc, faut se poser la question, après, est-ce que ça vaut le coup ou pas?
Ok. Mais après, effectivement, ce que je vous disais, moi, je cherche pas de dommages d'intérêt ou quoi que ce soit. Enfin, franchement, j'ai pas besoin de ça. aujourd'hui, j'ai absolument pas besoin de ça. Ma satisfaction, ça serait juste un rappel à ce monsieur par une institution.
Ouais, mais vous avez bien compris que vous pouvez être hyper déçu.
Ouais,
et si, si, quand bien même, il y a poursuite, le type a rien.
Et à ce moment-là, vous aurez le sentiment d'avoir été victime d'une injustice.
Ben oui, c'est terrible. Et il pourrait se retourner contre vous, puisqu'on appelle ça une dénonciation calomnieuse. C'est-à-dire que si il y a un procès et il se passe rien, il est relaxé, il aurait le droit de se retourner contre vous et vous seriez condamné automatiquement. Donc faut faire attention au retour du boomerang.
Mm-hmm.
Bon, voilà Mohamed.
Eh ben écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous Mohamed.
Merci, très bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Bien, mais c'est un vrai sujet hein, quand on se fait insulter. Finalement, qu'est-ce qui nous reste comme comme outil dans la main?
Les poings. Ouais, moi, je parle du poing. Vous savez, on peut pas faire du droit tout le temps. Moi, je dis que il y a certaines insultes quand le type est en face de vous et l'insulte et c'est vous avez les oreilles qui saignent. Mmh. On oublie l'avocat, on oublie la justice, on oublie le tribunal. Et on règle ça en lui crevant les yeux. Enfin, je sais pas, quelque chose. Après, vous êtes condamné. Khlas, c'est pas grave. Mais au moins, à ce moment-là, ça fait du bien et ça fait plaisir. Ouais. Voilà, comme ça, le type, il recommencera pas. Alors que même s'il est condamné demain ou après-demain, il peut recommencer. C'est quoi une condamnation dans l'absolu? C'est pas grand-chose dans ce genre de truc. On va pas le taper au portefeuille, ça va pas lui faire mal. Donc non, je crois qu'il faut lui faire mal physiquement. Il faut qu'il sente que vous êtes fâché.
Alors, le président de la République française invité d'Adil Farkan, tout à l'heure, donc avant le premier tour des élections présidentielles, il vous a écouté tout à l'heure et je sais que le président Emmanuel Macron souhaite répondre à Maître Serral.
D'accord.
Ça sera fait donc tout à l'heure chez Adil Farkan.
Écoutez, j'écouterai également alors.
Voilà, la réponse du président de la République, Maître Serran. On vous retrouve vendredi prochain.
Avec plaisir.
Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h dans Ramadan & Co avec l'imam Abdelali Mamoun et toute l'équipe. Passez une très belle journée sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.